Utopod 036, 21 novembre 2009, celle qui vit au-dessus des nuages, d'Elisabeth von Harbour. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle d'Elisabeth von Harbour, celle qui vit au-dessus des nuages, originellement parue dans le numéro 48 de la revue littéraire québécoise Moebius. Ce texte a été réédité dans diverses anthologies avant de figurer au sommaire du recueil « Sang de pierre » sorti en septembre dernier aux éditions à lire. Elisabeth von Harbour est une auteure majeure de la littérature de SF contemporaine. Née en France en 1947, elle s'installe au Québec au début des années 70 et y réside à ce jour. Forte d'une agrégation de lettres modernes et d'un doctorat en création littéraire, elle œuvre tour à tour en qualité d'animatrice d'ateliers d'écriture, de responsable de revue, de directrice littéraire, de critique, de traductrice, d'anthologiste et enseigne parfois la littérature. Elle consacre la majeure partie de son temps à l'écriture depuis 1990. Particulièrement remarquée pour son roman « Chronique du pays des mers » ainsi que ses cycles « Tyrannaël » et « Reine de mémoire », elle a publié en tout plus de 100 nouvelles, romans et recueils et a remporté les plus hautes distinctions littéraires du domaine de la SF. En août dernier, elle était invitée d'honneur de la 67e Convention mondiale de science-fiction aux côtés de Neil Gaiman. Le lecteur du jour est Vincent David, que les auditeurs du Utopod connaissent désormais très bien. Plus d'infos à son sujet sur www.utopod.com. Et maintenant, collez votre front à la fenêtre, regardez tomber la pluie ambrée et place à la littérature.
Celles qui vivent au-dessus des nuages, d'Elisabeth von Harbour. Déanna brille sous les lunes, une silhouette humaine dessinée en traits d'ambre liquide. Elle s'est levée aux premières gouttes, le visage renversé, les mains à demi tendues vers le ciel. Et c'est ainsi qu'elle a été prise, dans une posture d'accueil et d'exultation. Pierce s'était endormi, malgré tous ses efforts. Elle se réveille à présent avec un sursaut, toujours calé dans l'embrasure de la fenêtre. L'aube n'est pas très loin. Une sourde luminescence travaille le ciel à l'est, derrière le rideau lent de la pluie. Pierce regarde sa mère. Dehors, à travers la buée intermittente dont son souffle couvre la vitre. Personne ne bouge encore dans la maison, mais de toute façon, il est trop tard pour eux. Déanna leur a échappé. Pierce pleure un peu, quand même, en silence. Elle n'a pas pleuré quand sa mère l'a embrassée pour la dernière fois, quand elle a enjambé le cadre de la fenêtre pour se laisser tomber sur le sol, quand elle s'est éloignée dans la grande allée qui longe le dôme du potager. Pierce a eu peur qu'elle ne s'éloigne davantage, mais elle s'est assise en plein milieu. Tournée vers la maison, vers Pierce, qu'elle devait seulement voir à présent comme un pâle fantôme derrière la fenêtre refermée. Mais il ne faut pas pleurer. C'est ce qu'elle a dit. Il ne faut pas pleurer. Pierce s'est réveillé pour la voir assise sur le lit, et elle a compris tout de suite. Et sa mère a mis un doigt sur sa bouche. Chut! Mais Pierce avait déjà vaincu le cri qui lui montait aux lèvres. Elle a passé les bras autour de sa mère, elle l'a serré fort, fort. Elle l'a senti se raidir involontairement, et elle a desserré son étreinte, à la fois furieuse et désolée parce qu'elle avait oublié le dos meurtri de sa mère, l'entrelac à peine cicatrisé des coups de canne. Mais Déanna lui souriait quand même dans la lumière trouble de la veilleuse, malgré son œil encore entouré de violet, malgré sa lèvre fendue. Les premières larmes, alors, et « il ne faut pas pleurer ». Il ne fallait pas dire non plus « laisse-moi aller avec toi ». Parce que la pluie ne prend pas les petites filles. La pluie les tue. Pierce est trop petite. Elle a seulement 8 ans. Il faut être une femme, avoir eu des enfants. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ainsi. Et les hommes? Ah. Mais les hommes ne sortent pas sous la pluie. Non. Il ne fallait rien dire, c'est tout. Il n'y avait rien à dire. Comme la fois où Pierce s'était réveillé pour voir Déanna en train de gratter le ciment des barreaux à la fenêtre. Comme tout à l'heure, Déanna était trop malheureuse et elle avait trop peur et Pierce était trop petite pour des paroles. Elle le comprendra plus tard. Il fallait juste accepter le dernier baiser de sa mère, la regarder se déshabiller, et les marques sur ses seins aussi, comme sur son dos. La regarder ouvrir les volets intérieurs, enlever les trois barreaux descellés de la fenêtre, enjamber l'appui et sauter dans l'herbe. Pleurer, alors. Et ça faisait encore plus mal parce qu'il ne fallait pas faire de bruit. Et s'endormir de fatigue et de peine, et s'éveiller à l'aube pour voir la statue luisante sous la pluie. Déanna, perdue pour Pierce, immobile, paralysée, enfin libre. Quand ils se réveillent et comprennent, un orage de fureur muette se gonfle et tourne entre les hommes de la maison. À la table du petit-déjeuner où toute la famille se réunit le matin, dans la grande salle éclairée comme en pleine nuit parce que tous les volets sont fermés à cause de la pluie, grand-père Kirso est plus rouge que d'habitude. Ses yeux étincellent et les veines de ses tempes sont toutes gonflées. Oncle Roquel a l'air bien fâché aussi. Père Uzès jette de temps en temps un coup d'œil peut-être soupçonneux à Pierce par-dessous ses gros sourcils gris, mais elle est si hébétée de fatigue qu'il lui est facile d'avoir l'air innocent et perdu. De toute façon, ils ne peuvent pas savoir par où Déanna est sortie. Toutes les portes étaient fermées à clé, bien sûr. C'est la tradition pendant la pluie. Ils ne savent pas que pendant des années, Déanna s'est appliquée à desceller les barreaux à la fenêtre de la chambre de Pierce. Peut-être même n'ont-ils jamais voulu penser qu'elle pourrait désirer sortir, comme si ne pas y penser pouvait l'empêcher. Après tout, grand-mère Alta n'est jamais sortie sous la pluie, ni tante Yamila, et pourtant elles ont été battues plus souvent que Déanna. Elles sont plus vieilles. Pierce les regarde à la dérobée, sa grand-mère et sa tante, essayant de lire sur leurs visages fermés. Que pensent-elles? Est-ce qu'elles sont tristes? Ou bien est-ce seulement de la désapprobation? Finalement, Rosso, le plus petit garçon de Yamila, dit de sa voix geignarde « Où est tante Déanna ?» La gifle que lui allonge son père claque sèchement. Grand-père Kirso frappe des deux mains à plat sur la table, faisant sauter tous les couverts et, en s'étranglant presque, il dit « On ne prononce pas le nom des damnés sous mon toit !» Non, bien sûr, pas sous le toit d'un descendant du premier capitaine. Ses yeux impérieux font le tour de la table et Pierce, comme les deux autres femmes, baisse la tête avec obéissance. Grand-père Kirso ne peut pas savoir ce qu'elle pense, n'est-ce pas? Après le petit déjeuner, sous la surveillance de Kirso et d'Uzès, les femmes rassemblent toutes les affaires de Déanna pour en faire des paquets qu'on descendra à la cave en attendant de pouvoir les brûler. Dans un tiroir, tout au fond, une petite poupée de chiffon décoloré. Pierce sent grand-mère Alta se raidir près d'elle, tandis que la vieille main prend lentement la poupée, la tire sans la sortir du tiroir. Pierce se serre contre sa grand-mère en levant les yeux vers le visage soudain bouleversé qui se tourne un peu vers elle. Elles échangent un regard. La main ridée hésite. La voix de grand-père Kirso s'élève. « C'est bientôt fini !» Elles l'entendent s'approcher, trop tard pour refermer le tiroir et dire « Oui !» Il les écarte rudement, saisit la poupée et la jette sur le tas par terre. Grand-mère Alta s'est recroquevillée, mais il ne la frappe pas. Il recule, les bras croisés, près de Père Uzès qui regarde sans que son expression soit bien discernable à travers tout le poil noir et gris qui lui couvre le bas de la figure. On fait des paquets, on les ficelle, on les descend, Kirso les tasse dans un grand coffre qu'il ferme à clé. Voilà, c'est fini. Déanna n'existe plus. Mais ce soir-là, tard dans la nuit, Pierce ouvre le cadenas des volets intérieurs comme Deanna le lui a montré, avec le petit bout de fil de fer, et regarde la silhouette luisante de sa mère debout à côté du dôme. Ses bras sont baissés maintenant et les contours de son corps plus flous sous la pellicule qui s'est épaissie. Pierce ouvre la fenêtre et tend un de ses crayons sous la pluie. Comme elle avait eu peur lorsque Deanna avait fait cela, mais sa mère avait souri, seulement quand ça touche la peau. Et elle écrit « Deanna » plusieurs fois sur la fenêtre en lettres un peu ambrées qui deviennent vite transparentes puis disparaissent. La poitrine lui brûle, mais ses yeux sont secs. Grand-père Kirso et père Uzès ne peuvent fermer sa mémoire à clé, ni l'empêcher de voir sa mère, juste en face de sa fenêtre. Si elle osait, elle ouvrirait la fenêtre, arracherait les barreaux et sauterait à terre pour aller voir Deanna. Elle n'ose pas. 2 semaines à attendre, enfermée dans la maison comme les affaires de Deanna dans le coffre. Mais elle ne peut pas sortir. Pas sous la pluie. Pierce se rappelle la première fois où sa mère lui a parlé de la pluie. Elle avait 4 ans. Quelque chose tombait dehors de temps en temps, elle le savait vaguement, et alors on fermait tout, et on restait à l'intérieur de la maison jusqu'à ce que ça s'arrête. Et tous les hommes avaient l'air bien fâchés, et toutes les femmes étaient plus bavardes et plus obéissantes que d'habitude. Ce soir-là, Deanna était venue dans la chambre de Pierce. Il pleuvait depuis 2 jours et, dans la journée, comme tous les volets étaient fermés, c'était juste un froissement presque imperceptible à travers le bruit que tout le monde semblait essayer de faire. Les hommes en parlant plus fort que d'habitude, les femmes en jacassant ou en cognant les ustensiles dans la cuisine. Mais dans le silence de la nuit, le chuchotement insistant remplissait toute la maison. Il était tard. Pierce dormait. Et puis elle s'était réveillée pour voir Deanna à la fenêtre ouverte. Remplie de curiosité, elle s'était glissée contre sa mère qui avait sursauté, puis avait eu l'air soulagée en la reconnaissant et l'avait prise sur ses genoux. « Montre-moi comment tu fais pour ouvrir les volets. » Dans la lumière des lunes, Deanna avait l'air grave. « C'est un secret. » « Je ne le dirai à personne. » Si tu le dis, nous serons punis toutes les deux, très fort. Je ne le dirai pas, avait répété Pierce, blessé que sa mère pût mettre sa parole en doute. Avec un sourire, Deanna l'avait embrassé et lui avait montré comment jouer dans le cadenas pour l'ouvrir. Cette chambre avait été la sienne quand elle était petite. Elle avait eu le temps de trouver comment faire. Tu voulais voir la pluie? Avait demandé Pierce. Deanna hochait la tête, le visage tourné vers la fenêtre. Pierce avait regardé dehors, elle aussi, intriguée. La grosse lune était blanche d'habitude, les 2 petites un peu bleutées. Maintenant, elles brillaient toutes les 3 d'une chaude couleur d'ambre. C'était la pluie qui était colorée, lui avait expliqué Deanna. Mais pourquoi voyait-on les lunes? S'il pleuvait, il y aurait dû y avoir des nuages? C'était compliqué d'expliquer cela à une petite fille de 4 ans, et il avait fallu plusieurs rencontres clandestines au cours de plusieurs merveilleuses nuits de secret. La pluie n'était pas de la pluie. C'était liquide, mais plus épais que de l'eau. Ça tombait comme de l'eau, mais ce n'en était pas. En fait, Deanna ne savait pas très bien ce que c'était, elle avait à peine 19 ans, Pierce en prendrait conscience bien plus tard, et elle avait volé les informations qu'elle détenait au prix de dangereuses incursions dans le bureau de son père Kirso. On ne savait pas trop ce qu'était cette pluie, mais on pouvait décrire ce que ça faisait. Quand ça touchait quelque chose de vivant, une plante, un animal ou une personne, ça les transformait. Ça traversait la peau d'une personne, par exemple, et ça la changeait de l'intérieur. En même temps, ça la recouvrait d'une pellicule luisante en la paralysant, ou plutôt ça l'arrêtait dans le temps. Et ensuite, à mesure que la pellicule devenait plus épaisse et se gonflait comme un ballon, la personne commençait à changer. Les animaux et les plantes, pareil. C'était pour cela que la semaine précédente, on avait installé les dômes sur le potager, sur les étables et les poulaillers, avec les tunnels couverts qui y menaient depuis la ferme. Mais l'herbe et les fleurs entre les dômes, alors, elles allaient changer aussi ? Non, parce que c'était des plantes indigènes. Et l'histoire racontée par Deanna avait pris une direction toute différente cette nuit-là parce qu'elle avait dû expliquer du mieux qu'elle le pouvait à Pierce qu'elle vivait sur une planète, d'abord, et ensuite que les gens de la maison, de toutes les autres maisons du village, et les plantes de tous les potagers, et les bêtes de toutes les fermes, n'étaient pas originaires de cette planète, mais d'un endroit lointain. Et comment cette planète-ci n'était pas celle où se rendaient les colons, car ils y étaient tombés par accident. 225 ans plus tôt, un chiffre qui ne disait vraiment rien à la petite Pierce, et Deanna avait résumé « il y a très longtemps ». Et comment, n'ayant pu prévenir personne qu'ils étaient tombés sur la mauvaise planète, ils avaient fini par se résigner et s'installer.
Pourquoi elle est mauvaise ?
Oh, elle n'est pas mauvaise, avait répliqué Deanna. Elle ressemble assez à celle d'où venaient nos ancêtres. Nous pouvons manger un bon nombre de plantes et d'animaux indigènes, et il n'y a pas eu de problème vraiment grave d'adaptation pour les nôtres. La bouche de Deanna commençait à avoir ce dessin particulier de quand elle était triste ou en colère. Elle n'est pas mauvaise du tout. En fait, ils ont eu une chance incroyable.
Quoi, alors ?
La pluie. Une fois par an. Pendant 15 jours sans interruption, apparemment sur toute la planète, en tout cas sur tout le continent. La première fois, la colonie avait failli être détruite parce que ni ses plantes ni ses animaux n'étaient indigènes. Ils n'avaient pas eu le temps de s'adapter à la pluie. Tout ce qui s'était trouvé sous la pluie avait été perdu, y compris les gens. Les plantes et les animaux indigènes, eux, existaient depuis très longtemps, comme la pluie. Ils avaient eu le temps de s'y adapter. Ils étaient les descendants de plantes et d'animaux déjà transformés, et la pluie ne leur faisait plus grand-chose. Seules plantes et animaux indigènes mutants étaient affectés par la pluie. Il en arrivait de temps en temps par hasard, de ces mutations, et la pluie aidait certainement le hasard d'une façon ou d'une autre. Deanna n'était pas trop sûre de comprendre comment tout cela était possible, mais ce devait être lié à ces majuscules qui revenaient souvent dans un des livres de Kirso, ADN et ARN. Ailleurs, le livre décrivait ce qui se passait entre les plantes, les animaux et la pluie comme une symbiose. En gros, cela voulait dire que les plantes et les animaux de la planète s'entendaient plutôt bien avec la pluie et la pluie avec eux. La pluie, ou plutôt... ce qui produisait la pluie. Cela, Deanna l'avait murmuré plus bas encore que tout le reste. Quelque chose produisait la pluie, très haut dans le ciel, bien plus haut que les plus hauts nuages, si loin qu'on ne pouvait pas le voir. Quelque chose... Mais Deanna pensait que c'était quelqu'un. Et c'est la dernière histoire qu'elle a racontée à Pierce, la veille de sortir. Pas une histoire vraie comme celle de la colonisation, mais une histoire peut-être vraie, qu'elle avait fabriquée à partir de tout ce qu'elle avait surpris ici et là, dans les conversations des hommes ou le livre de grand-père Kirso et, oui, aussi, en parlant avec grand-mère Alta. On n'avait jamais trouvé aucune trace de créature intelligente sur la planète, ou enfin... sur le seul continent où les colons s'étaient installés et qu'ils avaient un peu exploré. Il y avait seulement cet étrange système écologique où aux formes de vie terrestre devaient sans doute correspondre des formes de vie célestes, puisque les premières étaient capables d'assimiler le matériel génétique des secondes.
Dans le livre de grand-père Kirsault, le savant qui avait essayé d'étudier la pluie et ses effets disait en conclusion qu'un pareil système ne pouvait avoir évolué de façon naturelle. Il alignait des tas d'arguments, la plupart incompréhensibles pour Déanna, mais elle en avait retenu un, et un seul. L'accident qui avait causé le naufrage des colons. Le grand vaisseau s'était mis en orbite pour leur permettre d'envoyer des sondes dans le curieux anneau qui entourait la planète, à l'extrême limite de son atmosphère. On y avait repéré des matériaux organiques en quantité. La sonde avait cessé tout contact avec le vaisseau lorsqu'elle avait atteint l'anneau. Apparemment, tous ces systèmes d'enregistrement étaient tombés en panne et ils étaient restés inactifs même quand on avait réussi à faire revenir la sonde. Et quelques heures plus tard, il y avait eu une autre panne dans les systèmes de propulsion du vaisseau. Critique, irréparable, mais qui avait tout de même laissé le temps de réveiller et d'évacuer tout le monde. Ce n'était pas parce qu'on n'avait pas trouvé de créatures intelligentes qu'il n'y en avait jamais eu sur la planète, n'est-ce pas? Peut-être qu'elles vivaient maintenant là-haut, dans l'anneau. Peut-être qu'elles étaient l'anneau. Et une fois par an, elles descendaient au-delà de la limite invisible qui encerclait l'atmosphère de leur planète natale, et elles lançaient leur pluie, comme un filet, pour laisser monter ensuite vers elles leurs enfants métamorphosés. Après la pluie, on ouvrit les volets et les portes, on démonta les dômes et les tunnels, et la vie reprit à la ferme. La première fois que Pierce alla dehors, elle posa un pied prudent dans le chemin, mais il ne restait aucune trace de la pluie. Elle observa les herbes sur les rebords. Elles étaient plus dures et plus hautes, leurs dentelures plus prononcées, et leurs couleurs tiraient davantage sur le bleu. Mais elles n'avaient pas changé. En fait, rien n'avait changé. Une fois que se fut dissipée la fumée du petit bûcher où l'on avait brûlé les souvenirs de Déanna. La silhouette lisse était toujours bien visible dans sa pellicule qui commençait à gonfler près du potager, mais personne ne passait par là, personne ne regardait même par là. Si Déanna s'était plantée devant la porte principale de la maison, on l'aurait contournée en faisant comme si on ne l'avait pas vue. La première fois, au commencement de la colonie, on avait essayé de récupérer au moins les bêtes et les gens touchés par la pluie en grattant la pellicule assez fine qui se formait au début. Ils respiraient encore, à un rythme très lent, mais on n'avait pas pu les réveiller. Et on n'avait pas pu les empêcher de mourir ensuite, horriblement déformés à l'extérieur comme à l'intérieur. On avait essayé d'ouvrir les sphères à divers stades de leur croissance, mais c'était de plus en plus difficile à mesure que la sphère était plus ancienne. Et de toute façon, ça tuait invariablement ce qu'il y avait dedans. À la fin, découragé de comprendre exactement ce qui se passait, et après avoir déterminé que la pluie revenait tous les ans de la même façon, on avait décidé de mettre au service de la survie les ressources qui restaient, de se protéger, comme on le faisait encore maintenant, et d'ignorer les effets de la pluie, qui n'en avait aucun, somme toute, si on mettait plantes et animaux non indigènes à l'abri. Les êtres humains, eux, étaient assez prudents pour se mettre à l'abri eux-mêmes. Sauf les femmes, de temps en temps. Déanna ne savait pas depuis combien de temps. On n'en parlait pas. Il n'y en avait peut-être pas eu qui sortaient ainsi sous la pluie au tout début de la colonie. La colonie était différente alors. Il y avait davantage de femmes. C'était avant qu'on ne se rende compte qu'il ne naissait pas beaucoup de filles. Au temps où les femmes pouvaient choisir leur mari aussi et aller vivre avec lui. Les hommes n'en parlaient pas, bien sûr, de celles qui sortaient sous la pluie ou seulement à mots couverts. C'était des folles. Il fallait être folle, n'est-ce pas, pour faire ça? Folle, ou alors possédée du démon. Les damnés, comme on disait maintenant. Mais Pierce savait bien que le démon n'existait pas. C'était une invention de grand-père Kirsault, à qui d'ailleurs il ressemblait sûrement. Elle savait bien que sa mère n'était pas folle, et elle était sûre que grand-mère Alta et tante Yamilla le savaient aussi, quelque part derrière leur silence et leurs yeux baissés. Maintenant, Pierce peut aller voir sa mère. Elle bourre des oreillers sous les draps, elle referme soigneusement volets et fenêtres derrière elle, et elle se laisse tomber dans l'herbe fraîche. La bulle n'est pas encore toute formée, assez petite, pas plus haute que ne l'était Déanna. Seulement une sorte de moitié d'œuf posé par terre, aplati en dessous, avec des contours arrondis partout. Pierce pense au liquide argenté qui se trouvait dans le thermomètre qu'elle a cassé l'année précédente, sauf que la moitié d'œuf n'est pas argentée et qu'elle ne bouge pas du tout. Avec un soupir, Pierce s'assied par terre sous la lumière déclinante des lunes redevenues blanches et bleues, derrière Déanna, de façon à être invisible depuis la maison, et elle écoute la nuit en contemplant la pellicule ambrée qui semble pulser, des vagues lumineuses presque imperceptibles tant elles se propagent avec lenteur. Si la transformation a commencé, on ne la voit pas de l'extérieur. Le visage aux yeux fermés de Déanna, désormais sans meurtrissure, est plus paisible que dans le souvenir de Pierce, même lorsqu'elle se rappelle avoir vu sa mère endormie. Déanna est plus petite cependant, comme si elle avait rapetissé ou comme si la substance où elle est suspendue, au lieu d'agir comme une loupe, agissait comme le petit bout d'une longue vue. Elle se tient debout, les bras écartés du corps, une dormeuse alanguie, et ses cheveux sombres flottent autour de sa tête comme les herbes dans la rivière derrière la ferme. Les mèches se tordent et ondulent avec lenteur, elle aussi, caressant son visage, ses épaules ou ses seins, d'où les marques bleuâtres ont disparu, comme sur son dos les cicatrices. Après plusieurs nuits où la crainte d'être découverte lui a fait mettre fin très tôt à sa contemplation, Pierce s'enhardit et reste plus longtemps. Elle voit alors que sa mère bouge. D'un mouvement ralenti, presque imperceptible, bras et jambes changent de position, le torse se plie ou se tord en une danse rêveuse, les mains ouvrent et referment leurs doigts comme des fleurs. Et puis il y a une semaine de pluie torrentielle, de vraie pluie, et Pierce ne peut pas sortir. Quand elle le peut enfin, elle constate que la moitié d'œuf est maintenant une vraie demi-sphère, deux fois plus haute qu'elle et qui a perdu sa couleur ambrée, ou bien est-ce la substance à l'intérieur qui a changé de nature? Il n'y a qu'une seule lune, la plus petite des deux bleues, mais une vague luminosité semble scintiller tout autour de la demi-sphère. Pierce se laisse tomber dans l'herbe humide, entoure ses genoux de ses bras, appuie son menton sur ses genoux. Elle a froid. Elle a mal. Quand Père Kirso lui a donné 5 coups de canne, elle a envoyé au lit sans manger parce qu'elle a dit le nom de Déanna. Elle n'a pas pleuré, bien sûr. Mais maintenant, dans la nuit, elle laisse les larmes couler. Elle voudrait les bras de Déanna autour d'elle. Elle voudrait être petite, toute petite. Elle voudrait n'avoir jamais quitté le ventre de Déanna. Et bientôt elle n'aura plus rien du tout, parce que la membrane n'est plus aussi transparente. On ne peut même plus bien voir le corps de Déanna, il devient flou. Et ce n'est pas juste, pas juste que la pluie ne prenne pas les petites filles. Et soudain, dans un grand élan de chagrin et de rage, indifférente au danger, Pierce se jette contre la demi-sphère, les mains en avant, et sent ses mains qui pénètrent dans la surface. C'est tiède, élastique, mais de plus en plus résistant, et au bout d'un moment, ses mains ne pénètrent pas plus avant. Et même, une force égale mais inverse les repousse doucement vers l'extérieur. Pierce, interdite, a oublié ses larmes et sa colère. Elle a un peu peur. Est-ce qu'elle va mourir? Elle regarde ses mains, attendant elle ne sait quoi, qu'elle se métamorphose, se couvre soudain de choses étranges et monstrueuses. Aucune douleur. Pas de fourmillement. Rien. Elle essaie de se rappeler ce que Déanna lui a raconté des efforts des colons pour ouvrir les sphères. Ils ont essayé avec toutes sortes de choses qui coupent et qui brûlent et qui serrent et qui frappent. Mais personne ne les a jamais touchés, bien sûr. Ils avaient trop peur. Au bout d'un moment, Pierce tend un doigt, le pose sur la surface. Tiède, souple, un peu frémissante, comme de la peau. Elle appuie, doucement, une légère résistance, puis le doigt pénètre, les autres doigts, la main, le bras. Elle s'immobilise, attend la force douce qui l'a repoussée la première fois. Rien. Elle retire son bras, hésite un instant, puis donne un coup de poing contre la surface. Son poing s'enfonce, rencontre la poussée inverse, ressort. Elle recommence, plus fort. Son poing va moins loin. La poussée en sens inverse est plus forte et plus rapide. Elle reste là, à contempler la demi-sphère, la tête un peu renversée en arrière, stupéfaite, émerveillée. Et puis, sans forcer, elle se colle tout contre, se laisse aller de tout son poids. Elle se sent couler lentement, très lentement en avant. Elle avait fermé les yeux, elle essaye de les ouvrir, ne sent pas d'obstacle. C'est comme sous l'eau, il suffit de vouloir. Elle retient son souffle. Elle regarde, mais elle ne voit pas grand-chose. La même luminescence atténuée, translucide, et le corps de Déanna au contour plus sombre mais encore flou. Et oui, il a changé. Il a grandi. Grossi. Les proportions et les formes ne sont plus les mêmes. Quelque chose touche Pierce et la repousse, comme des mains sur toutes les surfaces de son corps qui sont en train de pénétrer dans la demi-sphère. En même temps, il y a... Non, ce n'est pas une voix, mais une sensation de refus. Un refus aimant, inquiet, un peu triste aussi. Et Pierce est sûr, sûr que c'est Déanna, et elle se laisse faire à regret. Elle se laisse repousser. Il ne faut pas essayer de rejoindre Déanna ainsi. C'est dangereux pour Pierce, pour Déanna aussi peut-être. Pierce s'assied tout près de la demi-sphère, pose la main dessus, la laisse couler doucement dans la surface luminescente. Sûrement, ce n'est pas dangereux, juste une main. Et au bout d'un moment, bien que le corps de Déanna n'ait pas bougé de façon perceptible, Pierce sent qu'on la touche, un contact qui ne repousse pas sa main mais qui l'enveloppe, doucement, et la serre, doucement. Encouragé, Pierce fait des expériences. Une main, ça va. Les deux mains aussi. Et même le visage. Non seulement on peut ouvrir les yeux, mais on peut respirer, si on le fait doucement, sans à-coups, comme à travers des épaisseurs de velours. Il ne faut pas essayer d'entrer complètement, c'est tout. Avec le visage dedans, c'est mieux, parce qu'alors Pierce peut parler avec Déanna. Pas vraiment parler. Il y a des sensations, sans doute pas destinées à Pierce, mais qu'elle perçoit tout de même. Une vaste activité à la fois frénétique et presque immobile, très concentrée, et quelque chose comme lorsqu'on vous endort toute la bouche pour vous arracher une dent. On sait qu'on est en train de vous faire mal, mais on ne sent rien. Et il y a des émotions. Pierce sait que sa mère est heureuse de la sentir là, qu'elle l'aime, qu'elle s'inquiète un peu parce que Pierce fait quelque chose de défendu en venant la voir ainsi, mais qu'en même temps elle est fière de sa petite fille. Deanna est curieuse aussi, curieuse de ce qui lui arrive, de ce qui va lui arriver. Mais elle n'a plus peur du tout. Un mois. Deux mois. La demi-sphère est très grande, trois fois plus haute que Pierce et complètement opaque. Sa luminescence extérieure a peu à peu disparu pour se condenser à la surface en un éclat de miroir, où Pierce se regarde et se fait quelquefois des grimaces, riant en silence de son image comiquement déformée. Ce n'est pas vraiment plus dur d'entrer, pourtant, simplement, la légère résistance du début est plus longue et la pellicule extérieure, en se déformant, ondule de reflets irisés qui se propagent sur toute la surface, si lentement que Pierce a le temps d'enlever sa main et de suivre leur diffusion jusque de l'autre côté de la demi-sphère. Toute la vraie lumière est à l'intérieur, maintenant. Quand Pierce presse son visage à travers la surface, elle ne voit plus Deanna comme une découpure d'ombre, mais comme une condensation étincelante. Celle qui est Deanna, mais qui n'a plus le corps de Deanna. Les jambes se sont soudées, les bras ont presque disparu, le corps lui-même, cinq fois plus massif qu'auparavant, est tubulaire, plus renflé là où se trouvait le torse, plus effilé du côté où se trouvaient les jambes. De l'autre côté, il n'y a plus de cou, et pas vraiment de tête ni de visage, mais il y a encore des cheveux, ou quelque chose qui ressemble à des cheveux. De longs serpents translucides, toujours animés des mêmes torsions paresseuses, et qui s'amalgament sur un des côtés du renflement central pour dessiner une amorce de crête. C'est un peu comme ces bêtes de la mer qu'on voit dans les anciennes images, et en même temps, ça n'a pas l'air fini. Autrefois, Deanna a expliqué à Pierce comment elle a été créée et mise au monde. Maintenant, Deanna elle-même est redevenue comme un bébé, ou plutôt elle est un bébé, un début d'enfant, l'ébauche de la créature qu'elle deviendra lorsqu'elle ira rejoindre celle qui envoie la pluie. Trois mois. Maintenant, on devine l'autre moitié symétrique de la demi-sphère, moins aplatie contre le sol. Quand Pierce s'appuie contre la surface, elle n'y coule plus aussi facilement. Il faut pousser toujours davantage pour entrer. Quand son visage traverse la surface, elle peut sentir l'excitation de celle qui était Deanna, son impatience à peine retenue. Elle est devenue trop brillante, Pierce doit détourner les yeux, surtout de la partie du corps où se trouve la tête et peut-être le visage. Il faut presque fermer les paupières, laisser la lumière filtrer à travers les cils, et alors on peut jeter des coups d'œil rapides sur une forme massive mais fuselée, à laquelle s'attache sur toute sa longueur un vaste voile translucide dont les plis roulent et se déroulent dans presque tout le volume de la sphère, autour de la tête. Des milliers d'antennes flexibles, le souvenir des cheveux de Deanna flotte en auréole. Pierce ferme les yeux. Elle a regardé trop longtemps. Elle est presque aveuglée. Elle sent le lent mouvement qui tourne le corps lumineux vers elle, l'interrogation aimante, un peu triste sous l'exultation du départ proche. Mais il ne faut pas pleurer maintenant non plus, n'est-ce pas ? Pierce tend les mains une dernière fois. Mais ce n'est pas la main invisible qui la touche. Elle entr'ouvre les paupières. La tête écarlate est toute proche, baissée pour dérober son éclat insoutenable, et ce sont les antennes qui explorent ses doigts, ses poignets. Comme elles font écran à la lumière, Pierce peut ouvrir un peu plus les yeux pour les observer. Elles ne sont pas vraiment lisses comme elles le paraissent de loin, mais faites de millions de petits cristaux imbriqués les uns dans les autres, comme ceux des flocons de neige, pulsant d'un rythme incompréhensible, étranger, mais vivant. L'une des antennes s'enroule autour d'un index, se resserre. Le sentiment d'un adieu, tendre mais définitif, envahit Pierce. Elle retient sa protestation, mais ne peut s'empêcher de refermer sa main autour de l'antenne. Il y a comme un sourire, une approbation, une caresse. Le corps lumineux recule lentement, l'antenne se tend, s'étire un peu, casse et se replie vers le buisson de ses sœurs, laissant son extrémité autour du doigt de Pierce. Pierce recule aussi, à regret, le visage d'abord, et puis un bras et l'autre, et la main droite et la main gauche. Elle fait un pas en arrière dans l'herbe. Ses doigts sont simplement posés sur la surface maintenant. Autour de l'index de sa main gauche s'enroule une spirale cristalline aux couleurs du prisme, chatoyant dans la nuit. L'effet miroir de la surface a disparu. La lumière intérieure a commencé à diffuser de nouveau vers l'extérieur. Des vibrations scintillantes passent en vagues lentes, nées de tous les points de la surface, s'entrecroisant en réseaux d'interférences de plus en plus complexes. Pierce fait le tour de la bulle pour les observer, à pas lents, la main gauche à plat contre la sphère. Une fois, elle s'arrête. Essaie de presser son visage dans la surface, mais il n'y a plus de passage possible maintenant. Alors elle continue à marcher. De temps en temps, elle s'arrête et se colle de tout son corps contre la sphère, les bras écartés. Elle appuie sa joue contre la chaleur lisse, les yeux fermés, simplement pour la sentir là encore un peu, encore un moment. Mais les vagues s'accélèrent. On ne les voit plus séparément. À présent, c'est seulement une pulsation continue de toute la surface. La bulle s'élève au-dessus de Pierce en gagnant peu à peu sa forme parfaitement sphérique. Elle glisse sous les doigts, elle monte, elle s'en va. Pierce se dresse sur la pointe des pieds pour garder le contact le plus longtemps possible. Elle se trouve sous la bulle à présent. Les bras levés comme si elle la tenait, mais elle voudrait la retenir, et la bulle reste là juste posée au bout des doigts de Pierce comme si elle attendait, mais elle veut partir. Alors Pierce laisse ses doigts se replier, ses mains retomber. Elle baisse un bras, puis l'autre. Elle reste là à regarder la bulle qui monte. Une énorme lune brillante entre les maisons, puis de plus en plus petite, une étoile maintenant qui file vers le haut, une étoile qui va rejoindre les autres, toutes les autres, loin, là-bas, au-delà du ciel couleur de lait.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dans cet épilogue, j'aimerais parler de l'importance des revues littéraires spécialisées, outils essentiels pour la diffusion des genres qui nous intéressent. Ces revues sont indispensables à plusieurs titres. Tout d'abord, elles font la part belle à la nouvelle, qui est un format roi en science-fiction, et qui, pour des raisons d'ordre commercial, certainement compréhensibles, ne trouve pas facilement sa place dans les catalogues des éditeurs. Deuxièmement, ces publications permettent de faire connaître les nouveaux talents en leur donnant une première occasion de publier. Troisièmement, elles fonctionnent en quelque sorte comme des écoles d'écriture pour les jeunes auteurs qui, au contact d'éditeurs exigeants, se font la main et apprennent le métier. Pour toutes ces raisons, je vous encourage, vous auditeurs passionnés de littérature de l'imaginaire, à vous abonner à une ou l'autre des revues papier actuelles qui font un super boulot et qui n'ont pas toujours la vie facile. Les abonnements annuels sont en général très abordables et on peut recevoir ces exemplaires plus ou moins partout dans le monde. Je songe bien entendu aux partenaires du Topod, le magazine québécois Solaris et ses deux homologues français Bifrost et Galaxy, mais il existe un certain nombre d'autres publications de qualité, comme par exemple la revue Fiction. J'aimerais également donner un petit coup de pouce à un éditeur dont j'ai appris l'existence il y a quelques mois, Lire Audio, une collection de livres audio en texte intégral pour redécouvrir les classiques de la littérature. J'ai dernièrement eu l'occasion d'écouter un des CD du catalogue, Howard Phillips Lovecraft, Lettres de 1929, juillet à décembre. Le travail de lecture absolument remarquable permet de s'immerger dans l'univers épistolaire vertigineux du maître de Providence, qui, comme on le sait, n'excellait pas que dans l'art de la fiction. En prime, le CD offre la version électronique des textes en anglais et en français. Le tout pour 9,90€ seulement, comme d'ailleurs tous les CD de cet éditeur. Je vous donne rendez-vous le 26 décembre prochain pour un récit fantastique de l'auteur québécois Yves Narbonne. Frisson garanti. En attendant, portez-vous bien et lisez beaucoup. Bye bye.